Bienvenue à bord. L'entreprise de Los Reginas et l'équipage de ce bateau vous souhaitent la bienvenue ainsi qu'un bon voyage. L'itinéraire que nous allons suivre passe près du palais de la Madeleine, du palais royal, des plages du Salinero. Nous atteindrons le Cabo Mayor, près de l'île de Mauro et la plage du Puntal. Le voyage aura une durée approximative d'une heure. Nous naviguerons dans des eaux d'une profondeur oscillant entre 14 et 16 mètres à l'intérieur de la baie et allant jusqu'à 35-40 mètres à la hauteur de Cabo Mayor. Mais ne vous en faites pas, vous n'aurez pas à nager. Nous laissons sur notre gauche un grand bâtiment dont la façade est de couleur verte et marbre. Il s'agit du nouveau palais des festivals et congrès de Santander, appelé Cantabrie. Réalisé par l'architecte de Navarre, Sáenz de Oza, il peut contenir jusqu'à 2200 personnes et se divise en deux salles. Une grande, appelée Ataulfo Argenta, et une autre un peu plus petite, appelée José María de Pereda. La grande salle a une particularité. La scène principale se trouve devant cette baie vitrée, ce qui offre la possibilité pour ses représentations d'avoir comme décor naturel la baie de Santander. Et maintenant, nous passons devant les anciens chantiers navals de Saint-Martin et du promontoire démantelés il y a déjà environ 30 ans. On y construisait aussi bien des bateaux de milliers de tonnes que de petites chaloupes ou embarcations. Comme vous pouvez le constater, des hamacs ont été disposés pour prendre le soleil, se reposer et profiter de la baie de Santander qui appartient au club des baies les plus belles du monde. Un peu plus loin, nous apercevons trois bâtiments situés à côté du quai, au premier plan. Le bleu est l'ancien centre nautique. Celui du milieu est le musée maritime du Cantabrique, récemment restauré et agrandi. On peut y trouver diverses espèces de poissons et de mollusques, ainsi qu'un énorme squelette de baleine. La visite en vaut la peine. Il est ouvert tous les jours, sauf le lundi de 11h à 19h. Le dernier bâtiment est l'Institut espagnol d'océanographie. Au-dessus de ce bâtiment et un peu plus haut, nous trouvons la grande promenade résidentielle de la reine Victoria. Illuminant tout depuis un emplacement inégalable, le majestueux hôtel royal regarde les eaux de la baie, tout en surveillant de sa hauteur celle de la mer. Hôtel de la plus haute catégorie ici à Santander avec 5 étoiles. Et cette petite maison que nous voyons à droite de l'hôtel royal, qui ressemble à un petit palais, est bien connue sous le nom de Maison Pardo. Elle appartient à la famille Botin qui en a fait son siège. À ses pieds se trouve la plage populaire de la Madeleine, la plage la plus tranquille de Santander. Ses eaux sont un étang immobile à l'abri des vents. Ici, il n'y a pas de courant. C'est l'unique plage du chef-lieu orienté au sud. En continuant sur notre gauche à bâbord, nous arrivons sur une petite île au bâtiment blanc, connue comme l'île de la Tour. Il s'agit d'une école de voile. On y fait des stages à la semaine en été et le week-end en hiver. Des jeunes de presque toute l'Espagne y assistent. Et maintenant, derrière l'île de la Tour, nous apercevons la péninsule de la Madeleine, couverte de pins. Sur sa pente apparaît ce château. C'est le Palais Royal. Il s'agit d'un gentil cadeau de la ville de Santander aux avant-derniers rois d'Espagne, qui y passaient toujours la saison estivale, sous le règne d'Alphonse XIII. Celui-ci y passa 17 étés. À l'époque, le palais coûta 700 000 pesetas payées par souscription populaire, bien qu'aujourd'hui ils n'appartiennent plus à la famille royale. Cela fait environ 35 ans que la ville de Santander l'a racheté. C'est maintenant le siège de l'Université internationale Menéndez Pelayo. La petite plage que nous voyons devant s'appelle la plage des bikinis. Et c'est ici que les premiers bikinis apparurent, portés par les étudiantes étrangères qui allaient à l'université. Le bâtiment au toit à grenat représente les anciennes écuries, aujourd'hui réaménagées comme auberges pour les étudiants. Et maintenant, nous passons devant l'embarcadère royal. C'est là que le roi Alphonse XIII embarquait sur la Farula qui l'amenait jusqu'au yacht Giralda, sur lequel il naviguait en mer cantabrique. Le passage du temps a bien abîmé cet embarcadère. Et entre-temps, nous arrivons à la partie de la péninsule de la Madeleine qui reçoit le nom de Point de la Cerda, tout comme le phare situé au-dessus, le phare de la Cerda. Il s'agissait d'un élément de défense de l'entrée du port de Santander. Y était installée une batterie d'artillerie côtière. Le gouverneur qui exigea sa construction s'appelait Fernando de la Cerda, d'où le nom. Nous distinguons maintenant à la proue l'île de Mauro, à la fois tour et chien de garde de l'entrée de Santander. Il y a 90 ans, cette île était habitée. Y vivait un couple qui était chargé d'allumer et d'éteindre le phare. Le problème que ces personnes avaient survenait quand la mer était agitée et qu'elles ne pouvaient pas partir en mer acheter des vivres. Elle fut remplacée par des bouteilles de propane et il y a à peu près 20 ans par des panneaux solaires que vous pourrez voir sur le dôme du phare. Aujourd'hui, le phare est automatique et n'est pas habité. Ajoutons que sur cette île vivent diverses espèces d'oiseaux comme les cormorans et les mouettes. Il y a longtemps, les habitants de Santander venaient y ramasser des œufs pour les employer dans des pâtisseries et en faire des gâteaux. C'est une réserve naturelle depuis 1986. On a comptabilisé à peu près 1200 espèces dans ces fonds. Des écoles de plongée sous-marine y viennent pour observer les merveilleux fonds qu'elles possèdent. Des grottes, des cavités dans la partie nord d'une profondeur d'environ 30 mètres et d'environ 14 mètres dans la partie sud. Nous continuons à naviguer et nous laissons sur notre gauche, à bâbord, trois galions construits en Équateur avec leur navigateur né ici à Santander, Vital Alzar. C'est lui qui organisa l'expédition pour les ramener ici. La traversée fut longue, elle dura 6 mois. Les bateaux n'avaient pas de moteur. Ils étaient à la merci des vagues, des courants et des vents. Ils avaient de petites voiles. On m'a laissé comprendre que la traversée avait été très dure. On a voulu commémorer l'expédition d'Orellana. Aujourd'hui, ce lieu s'appelle le musée de l'homme et de la mer. À droite des bateaux, la mairie de Santander a créé un petit zoo. Il contient une piscine avec des phoques, des pingouins et des otaries. On peut le visiter de 10h à 21h et l'entrée est gratuite. Pour continuer, nous trouvons la plage du Chameau. Son nom provient d'un rocher situé près de la plage ayant la forme de cet animal, mais que l'on peut voir sur la plage à marée basse. Et nous voilà face aux plages du Sardinero. Ces plages, pour leur emplacement et la douceur de leur sable, sont devenues célèbres en Espagne et à l'étranger. Elles ont obtenu plusieurs prix, comme le label pavillon bleu de la Communauté économique européenne, ainsi que le pavillon blanc du monde propre, qui les distingue pour leur propreté. Elles sont divisées en deux par les jardins de Piquillo. Ce promontoire rocheux que nous voyons au milieu est un lieu recommandable, à visiter de jour comme de nuit, car son illumination est assez particulière. Face à la plage, vous verrez un bâtiment blanc possédant deux tours. Il s'agit du Grand Casino de Santander. Un peu plus en avant, face à la deuxième plage, derrière les arbres du parc Mesones, s'élèvent quatre projecteurs d'illumination. Ce sont le terrain de sport du Sardinero, où joue le Racing de Santander. À la proue se trouve la propriété de Mataleñas, dont la prolongation est Cabo Menor. Ce domaine se divise très clairement en deux parties. L'une d'arbres et l'autre d'un terrain de golf. Le premier terrain de golf municipal d'Espagne a 9 trous. Il s'agit du terrain de golf municipal de Mataleñas. Un peu plus à l'avant, nous apercevons le Cabo Mayor et son phare. Lumière et guide en mer pour les navigateurs. Entre Cabo Menor et Cabo Mayor existe une petite crique, la plage de Mataleñas, qui fut un temps refuge secret pour ceux qui, peu nombreux, connaissaient son existence. Nous nous trouvons enfin à la hauteur de Cabo Mayor. Au fond, on aperçoit les falaises. La pointe qui ressort est Malasmañas, un chemin qui nous amène dans les Asturies et en Galice. D'ici se trouve le port le plus proche à 19 000. C'est Suances et le cap vers le nord, cap vers l'Angleterre. Et nous allons faire demi-tour pour entrer dans les eaux tranquilles de la baie. La côte que nous voyons maintenant à la proue, la pointe la plus élevée, est le Cabo de Quintres, Il s'agit d'un éperon rocheux de 132 mètres de haut. Celle du fond est le Cabo de Ajo. C'est la route pour aller à Bilbao et à Saint-Sébastien. Le port le plus proche est Santonia, à une distance de 23 milles. Santonia est juste en face de Laredo. Observez maintenant, à la proue du bateau, l'étendue de la plage du Puntal, d'environ 8 km de long. Sur notre gauche, voici le village de Loredo, devant nous, Somo. Et un peu plus sur la droite, en entrant dans la baie, la plage du Puntal, ou Punta Rabiosa, avec une longueur, comme je vous l'ai dit, d'environ 8 km. C'est probablement l'une des plus longues du littoral cantabrique. Maintenant, nous laissons sur notre gauche le village de Pedreña. Un village typique ici à Santander, célèbre un temps pour son équipe de trainières de banc fixe. Il fut champion d'Espagne des trainières durant plusieurs années. Pedreña est connu mondialement pour son terrain de golf et son joueur de golf, Severiano Ballesteros. On aperçoit le terrain de golf sur la gauche de Pedreña, où l'on voit tous ses arbres. Il fut inauguré en 1928. Il compte 27 trous et de merveilleuses vues sur la baie de la rivière Cubas. Il est considéré comme l'un des plus beaux terrains de golf naturels d'Europe. Également dans le village de Pedreñas, sur le quai même, se trouvent de nombreux restaurants grills où l'on peut déguster des palourdes marinières, des sardines à la plancha ou bien grillées, ou une bonne bonite. À gauche aussi, la montagne Peña Cabarga. En haut, vous verrez qu'elle possède deux tours. Celle de droite correspond au relais de la TVE, la télévision espagnole, et celle de gauche au monument aux Indiens. Celui-ci fut inauguré lors de la semaine navale qui eut lieu à Santander en 1968. Les Indiens étaient des personnes qui quittaient l'Espagne pour faire fortune. Certains réussirent, mais d'autres y laissèrent même la valise qu'ils emportaient avec eux. Voici quelque chose qui ressemble à un pont. C'est un oléoduc. Ici, nous le connaissons comme jeté de Calatrava. Au bout, elle possède un quai d'amarrage pour les bateaux, une usine de gaz butane et une autre appelée Dinasol. On y décharge du propane et du butane, et pour ce qui est de Dinasol, de l'huile tangentielle. Cette usine fabrique du caoutchouc synthétique et du noir de carbone pour pneus. La distance entre le quai d'amarrage et les usines est quasiment de 5 km. Et voilà la proue, le centre Botín, inauguré en 2017 par Sa Majesté le Roi d'Espagne Don Felipe et la Reine Doña Leticia. Le centre Botín est un centre d'art conçu par l'architecte Renzo Piano. Il s'agit d'un espace multifonction, abritant des salles d'exposition, des ateliers, et qui compte deux espaces différenciés, l'un pour des expositions internationales d'art et l'autre plus petit qui est un auditorium. Il sera sans aucun doute une référence pour l'art dans le nord de l'Espagne. Bon, eh bien, rien de plus. Petit à petit, nous nous rapprochons de notre destination, le port de Santander. J'espère que le voyage vous a plu. Merci beaucoup pour votre gentillesse et votre attention. Et à la prochaine. Bon séjour en Cantabrie.